Pourrais-tu survivre 4 mois en autonomie sur un gros radeau, comme mon invité ? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Corentin de Châtel-Perron pour parler de low-tech et ton défi complètement incroyable de vivre 4 mois en autonomie sur un radeau. Salut Corentin !
Salut Pierre.
Alors je te présente en 10 secondes, t'es un peu le MacGyver des low-tech, t'es ingénieur, navigateur et cobaye de tes propres expériences. Et moi je te suis depuis 9 ans, je me suis rendu compte, depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat social en travaillant chez Spark News. Et j'adore ton travail. Et je crois que t'as 38 ans et depuis 6 ans tu fais le tour du monde sur un bateau à la recherche d'innovations low-tech, l'opposé de high-tech, prometteuses qui répondent à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie ou la nourriture et que bah, tu testes ensuite, enfin, vous testez, sur votre bateau laboratoire. Et tu as aussi créé l'association Low-Tech Lab qui répertorie donc ces bonnes idées low-cost inventées aux quatre coins du monde et qui explique comment les reproduire avec des tutos très clairs pour que ces innovations bah, bénéficient au plus grand nombre. Pour commencer, après une première aventure incroyable où tu as construit au Bangladesh le premier bateau à base de fibres de jute, qui est bien plus écolo que la fibre de verre, et navigué dessus pendant 6 mois, donc déjà ça c'est hors norme, tu t'es lancé à un nouveau défi, donc ce que je dis, vivre en autonomie sur un espèce de radeau de 70 mètres carrés dans une baie en Thaïlande pendant 4 mois. Pourquoi est-ce que tu décides de faire ça, Corentin?
Alors, pourquoi? Parce que, alors, ça faisait plusieurs années que je me renseignais sur les innovations low-tech. Okay. On avait commencé le tour du monde en quête des innovations low-tech depuis 2 ans. Et déjà, on avait vu des innovations sur qui touchaient à l'accès à l'eau, à l'énergie, la nourriture, le recyclage des déchets, etc. Et c'est des innovations qui m'inspiraient beaucoup, qu'on avait toutes testées sur le bateau, parce que comme tu le disais, en fait, on teste chaque innovation sur le bateau pour ensuite bien les documenter et bien les diffuser via l'association ouais. Low-Tech Lab, pour que d'autres.
Est-ce que avant d'aller plus loin, pardon, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le mot low-tech que j'ai beaucoup utilisé, ouais. Que les gens connaissent pas forcément, et si possible donner des exemples.
Ouais, ce qu'on appelle low-tech. C'est des technologies ou ça peut être des savoir-faire qui répondent à 3 critères. C'est utile, accessible et durable. Utile parce que souvent ça sert à quelque chose. Donc comme je disais, l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture,
ouais,
le
recyclage des déchets,
etc. Des besoins de base, ouais. Accessible, c'est là la différence avec les high-tech. C'est que ça peut être fabriqué ou au moins réparé un peu partout dans le monde. C'est appropriable localement. Et durable parce que ça coûte pas un bras, ouais, ou ça demande pas, tu vois, des machines ou des compétences hyper pointues.
Ouais.
Et durable, tu connais. et donc c'est toutes ces innovations là. En fait, l'origine de l'association et du projet du Low-Tech Lab, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui inventaient des trucs géniaux un peu partout dans le monde, mais que ces trucs géniaux restaient souvent à échelle trop locale. Les idées ingénieuses, accessibles à tous, n'étaient pas forcément bien communiquées. Et du coup, l'idée, c'est de trouver toutes ces idées ingénieuses, les documenter et les diffuser, les promouvoir pour que quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, elle puisse servir à des milliers ou quelquefois des millions de personnes à l'autre bout du monde. Mmh. L'idée est bonne pour eux.
Tu aurais un exemple?
L'origine. Alors, j'ai 50 exemples sous la main.
Je me doute que t'en as 100 000.
Sur l'accès à l'alimentation, par exemple, on a découvert à Madagascar la culture de spiruline. C'est une micro-algue que tu peux faire pousser dans un appartement, sur un toit d'une maison ou alors dans un bassin à l'extérieur.
Quel que soit le climat.
Au soleil. Tu vois, même là, on a un escale à New York et il y en a qui font pousser de la spiruline dans New York. Mais on a étudié ça à Madagascar. C'est une dame, Dr Vola, qui en faisait pousser parce que nutritivement, c'est hyper bon et ça permettait de lutter contre des carences chez des enfants dans le sud de Madagascar. Bref, ça c'est pour l'accès à la nourriture, l'accès à l'énergie. Là, j'ai sous les yeux une petite éolienne qu'on a faite au Sénégal, qui est faite avec des moteurs d'imprimantes recyclées. C'est les moteurs dans les imprimantes qui font avancer, reculer les feuilles. En fait, quand l'imprimante est morte, souvent ces moteurs-là, ils marchent toujours.
Génial.
Et tu fixes des pales dessus. Ça permet de recharger quand il y a du vent un téléphone ou
non. Ouais.
Je sais pas si ça te dérange, il y a des bruits d'avions assez high-tech. Donc je m'arrête quand il y a un avion qui passe ou ça va?
Bah pour la prochaine fois, ouais, là pour la blague, c'est okay. Marrant, mais oui, j'essaie de la douceur au montage.
Ça marche.
Et du coup, pourquoi tu décides de partir 4 mois sur un radeau?
Oui, alors je reprends. Ça faisait 2 ans qu'on avait commencé le tour du monde et je m'étais rendu compte que il y a plein d'innovations qui ont été inventées à des endroits différents dans le monde et qui ne se sont jamais rencontrées, alors qu'il peut y avoir des bonnes combinaisons d'innovations low-tech. Parce que les déchets de l'une peuvent servir de ressource à l'autre, etc. Et du coup, j'ai voulu essayer de créer une espèce de base vie, une combinaison de low-tech qui me permette de produire mon énergie, mon eau, ma nourriture, etc. Et je me suis dit, l'idéal, moi je crois beaucoup à tout ce qui est innovation sous contrainte. D'ailleurs, la plupart des low-tech qu'on a découvert, elles avaient été inventées sous contrainte. Et t'as un problème, ton ingéniosité
souvent par des gens très pauvres.
Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre sous contrainte, avec pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'énergie, enfin couper de tout en fait. Et j'ai choisi une plateforme flottante. C'était dans une baie d'une île déserte en Thaïlande, une espèce de plateforme comme un radeau de bambou de 70 mètres carrés. Et je me suis installé avec une trentaine de low-tech en me disant, je vais essayer avec tout ça de produire tout pour vivre sous contrainte. Et du coup, je vais être obligé de réussir. Bon, j'ai pas tout réussi, mais ça m'a... du coup, je suis resté 4 mois. Tu vois, j'ai fait un truc assez... J'ai une démarche assez scientifique. Enfin, j'avais un espèce de protocole à suivre. J'ai fait une prise de sang avant, une prise de sang après pour voir si j'avais développé des carences. Je notais tout au fur et à mesure.
Spoil pas trop la fin, on va raconter.
Ok, oui. Enfin, en tout cas, quand je me suis lancé en me disant, je vais tout noter, tout ce que je récolte, tout ce que je produis, etc., tout ce que je mange, je vais me peser. J'avais le suivi d'un médecin, d'un nutritionniste, etc.
Ouais, c'est carré et scientifique, quoi. Effectivement, là je pense à d'autres exemples de low-tech qui sont peut-être plus mainstream, comme les fermetures éclair par exemple, c'est un exemple de low-tech, ou un autre que tu as utilisé qui est tout bête, mais d'avoir une serre pour les plantes. Et
une fermeture éclair, tu dis?
Ouais. Tu mets pas ça dans
Si, maintenant que tu le dis, ouais. Mais j'avais jamais. Je m'étais jamais dit que c'était.
pour être honnête, j'ai dû lire ça dans un article il y a quelques années. J'ai fait,
j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, t'as raison.
Du coup, tu as sélectionné une trentaine de low-tech pour cette expérience, et donc notamment certaines pour manger, d'autres pour boire et pour avoir de l'énergie. Est-ce que tu peux nous redonner quelques exemples, par exemple pour manger? Donc il y avait la spiruline, mais il y en avait d'autres, non?
Ouais, il y avait un système de culture hors sol. En fait, du coup, j'avais pas de terre sur ce radeau et j'avais très peu d'eau. Et du coup, j'ai fait pousser des plantes dans des billes d'argile et il y a un circuit d'eau qui circulait à travers les racines dans lequel je mélangeais de l'engrais que je faisais moi-même, enfin via ce qu'on appelle un biofiltre. C'est des bactéries qui transformaient mes eaux grises, l'urine par exemple, en nitrate et en en engrais pour les plantes. Et donc, ça circulait en circuit fermé, donc ça consommait très peu d'eau et ça faisait pousser les plantes très bien. Pendant 2 mois, j'ai un peu galéré avec un autre système et j'ai changé de système et là, ça a commencé à être bien.
Ouais. Tu avais des poules aussi, ça c'est entre guillemets low-tech, les champignons, ça pousse bien et tout seul.
Champignons, ça pousse sur des déchets organiques. Là, c'était sur de bois, mais tu peux en faire pousser sur de la paille, du carton, etc. Les champignons, ça pousse sur des déchets issus de l'agriculture, comme de la sciure de bois, ou de la paille. J'avais aussi un élevage de grillons, je suis végétarien, mais sauf pour les grillons. Enfin, sauf pour les insectes, parce que ça consomme assez peu de ressources, en fait, la viande de grillon. Et ils adorent ça, en fait, trouve ça sympa aussi parce que ça met une bonne ambiance. Ça se
pense. Et puis c'est le régime de base de millions de personnes dans le monde, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, il y a 2 millions de personnes dans le monde qui consomment régulièrement des insectes. Et puis c'est omnivore, donc c'est un peu comme les boules, ça mange un peu de tout.
Ok.
Qu'est-ce que j'avais d'autre Et après, ouais, de... j'avais...
Juste j'avais, avoir une gouttière de pluie, déjà, c'est tout simple, mais pour récupérer l'eau de pluie, ouais. Avoir des bacs, des...
Alors, sur l'eau, je devais dessaler l'eau de mer, et mes dessalinisateurs n'ont pas bien fonctionné. Heureusement, il a plu juste assez. Et comme tu dis, ouais, je récoltais l'eau de pluie grâce à des gouttières.
Ouais.
Et ça a tout juste suffi. Ouais. Mais ça m'a demandé d'économiser pas mal d'eau. Et heureusement, mon système de... Bah, tout ce que je produisais demandait quand même assez peu d'eau.
Ouais.
On ne se rend pas compte donc, à fait, quel point il faut énormément d'eau pour tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on fait pousser, tout ce qu'on mange, etc.
Ouais, ouais.
Et là, c'était un défi de consommer seulement une vingtaine de litres d'eau par jour en incluant la culture de légumes.
Ouais. Là, du coup, tu vois tout de suite très clairement bah, les quantités dont tu as besoin pour, bah, pour vivre, tout simplement. Et donc, le but, c'était, tu le dis, de recréer un écosystème avec plein d'interactions voilà, qui couvrent tous tes besoins. Tu as dit, par exemple, ton urine qui sert d'engrais aux plantes, etc. Ok, donc tu es sur ton grand radeau pardon, avec deux poules et un canard. Il se passe quoi au moment où l'aventure commence dans ta tête
Bah, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était assez ambitieux parce que bah, j'ai débarqué sur ma plateforme avec donc une trentaine de low-tech. Chaque low-tech, ça demande quand même un savoir-faire particulier. Donc, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à connaître sur chaque truc. Moi, je suis ingénieur à la base, mais plutôt, tu vois, mécanique ou des trucs, pas des trucs vivants. Et en fait, le vivant, ça demande beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Et ouais. Et en plus de ça, quand j'ai le jour numéro 1 des 4 mois, il y avait pas encore de plantes, il y avait que quelques litres de spiruline, je pouvais pas encore en récolter. En fait, il y avait encore rien à manger. Et alors j'avais embarqué des patates douces en calculant qu'il fallait que je fasse pousser la même quantité de patates douces pour pouvoir en gros comme rembourser celles que j'avais embarquées à la base.
Ouais.
Donc
ouais.
En fait les 15 premiers jours même plus que ça j'ai mangé très peu diversifié enfin très peu de choses
ouais. Bah,
et donc le jour
1
je me suis dit ouais voilà lancer tout l'écosystème ça a pris beaucoup de temps et donc le jour 1 je me suis dit oh là j'ai énormément de trucs à faire pour lancer toutes les low-tech et j'ai rien à manger pendant des jours.
Voilà, ça s'annonce pas bien cette histoire. D'ailleurs, toute ton aventure est racontée sur Arte et YouTube, maintenant dans le docu 4 mois sur ma biosphère, vraiment, qui est passionnant. Et il y a un moment où j'étais mort de rire. C'est quand il y a un voisin pêcheur de taille qui veut t'offrir à manger. Est-ce que tu peux nous raconter?
Bah ouais, en fait, dans cette baie, il y avait quelques autres plateformes avec des Thaïlandais qui élevaient des poissons ou cultivaient des algues aussi. Et bref, moi, je parle pas thaï et eux, ils parlaient pas anglais. Et donc, bon, je leur ai dit bonjour et tout ça. Et c'est hyper sympa, mais j'ai eu du mal à leur expliquer le concept de ce que je faisais. Et donc, le premier réflexe, comme tous les gens sympas du monde, c'est de venir m'apporter de la nourriture. Et donc, j'ai dû refuser du coca ou des espèces de saloperies, des trucs qu'ils m'offraient là. Mais alors qu'ils étaient hyper sympas de me les offrir, j'essayais de leur expliquer que je pouvais pas parce que dans mon expérience j'avais fait une prise de sang avant, puis je commençais à manger des trucs qui étaient pas prévus dans mon régime, ça allait fausser toute mon expérience. Et va expliquer ça dans une langue
dans une langue étrangère. En plus le mec il te file du café alors que c'est le truc qui te manque le plus.
Ouais.
La torture.
Ouais, le café ça c'est un coup dur. Ouais parce que ça pareil j'avais mal anticipé ça avant.
Ouais.
Mais à manger que ce que je produisais plus les patates, j'avais aussi du maïs, de l'huile et des arachides. Ouais. Mais en gros rien d'autre de plus. Ça veut dire que je me privais de café, de sucre, de chocolat, de plein de trucs qui, en fait, font partie de mon quotidien depuis quasi ma naissance.
On a des addictions discrètes. Quoi.
Et j'avais jamais arrêté le café ou le chocolat ou le sucre plusieurs jours de suite, en fait, depuis 30 ans, peut-être, même plus. Et au début, du coup, ça fait un petit peu bizarre, ouais.
Comme tu as une démarche scientifique et que bah, tu ne veux pas mettre ta santé en danger bêtement, tu as dit que tu avais une balance de professionnel. Mais dès la première semaine, tu avais perdu 2 kilos, alors que bah, tu n'es pas très épais déjà. Et effectivement, tu étais à deux doigts d'une pénurie d'eau. Tu te dis quoi à ce moment-là, MacGyver?
Eh ben, je me dis que j'essaye de comprendre, et en fait, ma balance, elle m'indiquait la proportion de graisse, d'eau, de muscles, etc. Donc, j'ai regardé plus en détail, et en fait, c'est mes muscles qui avaient diminué. Ouais. Alors, je suis déjà pas très musclé. Du coup, je me suis demandé lesquels étaient partis. Et bon, a priori, ça me dérangeait pas trop. Mais j'ai regardé un peu, j'ai demandé à un nutritionniste et en fait, a priori, c'est un manque de protéines qui disait que j'avais une perte de muscles.
Ouais.
Et du coup, je me suis plus concentré, j'ai mis plus en priorité tout ce qui était production de protéines, donc la spiruline, les grillons, les œufs de poule. Ouais. Mais bon, t'as beau mettre la pression à une poule, elle va pas faire plus d'œufs, au contraire. Ouais. Mais tu vois, j'ai essayé de m'organiser pour assez vite remanger des protéines. Et en fait, les deux semaines qui ont suivi, j'ai repris un peu le poids que j'avais perdu.
Okay.
Parce que, okay. En fait, les deux premières semaines, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour installer toutes les low-tech et peu manger. Et ouais, puis petit, j'ai chaud, commencé à, tu vois, à récolter des grillons. Ouais, il faisait super chaud aussi. Récolter des grillons et puis des champignons, des œufs.
Alors avant d'aller plus loin, vous qui nous écoutez, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire, podcast ou YouTube. Et toi, Corentin, dans le docu, on voit donc tes mille et une galères. On ne pourra pas toutes les évoquer parce que entre les invasions de chenilles, de moustiques, ta poule qui meurt, etc. En fait, toi, tu gères une civilisation, quoi. Et on se rend compte à quel point, quand il y a un truc qui se dérègle, tout part en cacahuète. Et au contraire, quand tout fonctionne, c'est l'abondance, quoi. Mais la paix et le chaos de l'écosystème, c'est très fragile.
Ben, ça, c'est aussi un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça a été peut-être la plus grande leçon pour moi de l'expérience. C'est la cohabitation avec les autres espèces et le fait de me sentir dans un écosystème. Je n'avais jamais vraiment vécu ça, en fait. Parce que quand tu habites, je sais pas, dans une ville en France, tu vas dans un supermarché, tu achètes une endive, tu n'as pas vécu un truc avec l'endive avant. Tu n'as pas vécu toute une histoire. Tu ne sens pas que tu fais partie d'un écosystème avec l'endive.
Ouais.
Et alors que là, quand tu manges un grillon, tu l'as entendu chanter les jours d'avant. Ensuite, tu l'as tué, ça t'a fait quelque chose de le tuer. Puis là, tu le manges et puis tu te dis, en fait, en le mangeant, ça va être des protéines qui vont constituer mes muscles. Donc, en fait, le grillon, il va se réintégrer en moi, finalement. en fait, et puis le fait d'être tout seul, je pense que tu réfléchis différemment au bout de quelques mois. Et t'as fait pousser tes plantes, et puis pendant deux mois, ça n'a pas marché. Et puis après, ça marche. Donc, tu te sens super fier de voir ces plantes-là. Et puis, tu sais qu'elles ont grandi grâce à des bactéries qui ont transformé tes eaux grises, machin, etc. Et surtout, tu, en fait, non seulement tu vois les trucs grandir, mais surtout, tu comptes sur eux, en fait. Tu sens vraiment que tu dépends d'eux. Et dépendre d'une poule, par exemple, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça change tout dans ta relation avec la poule. Et bref, dépendre de cet écosystème-là, et en plus du fait d'être le seul humain de l'écosystème, ça m'a vachement fait prendre conscience qu'on faisait partie d'un écosystème. Et puis, je me suis renseigné aussi sur, je ne sais pas si tu as entendu parler de microbiote, et du fait que tu étais toi-même composé de plein de bactéries, de champignons, etc. Mais en fait, dans ces micro-organismes-là, tu pourrais même pas vivre et ils sont dans ton corps. Et en fait, on est déjà nous-mêmes des écosystèmes. Et bref, j'ai eu plein de réflexions sur notre lien avec les autres espèces vivantes de la planète. C'était complètement négligé, en fait, dans notre vie quotidienne classique. Et là, ça m'a vraiment... pour moi, c'était la plus grande leçon de cette expérience-là. Et pour moi, l'humanité ne peut pas continuer si elle ne reconsidère pas les connexions qu'elle a avec les autres espèces, en fait.
Bah oui, là, on est tellement hors sol que c'est super sain, du coup, bon, là, t'es mis dans des conditions extrêmes, mais ça permet de recréer ces liens avec tout cet écosystème dont on dépend, mais dont on ne se rend pas compte parce qu'on croit qu'on s'en est affranchi par des machines et de la mondialisation.
Cette relation de dépendance, c'est sûr qu'on pourra jamais s'en affranchir. Et pourtant, on fait tout pour croire qu'on s'en affranchit, en fait.
Comme si elle n'existait
pas.
Depuis
10 000 ans, siècle après siècle, en fait, on invente des trucs pour se séparer un peu de la nature et croire qu'on est indépendant de la nature. Mais en fait, c'est non seulement pas possible, mais c'est même pas souhaitable, en fait.
Et qu'en plus, on n'est pas une espèce en haut de le... voilà, qui est supérieure à toutes les autres. Enfin, non, on en fait partie et on est pas plus important qu'une autre espèce, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, ça, c'était une de mes réflexions que tu as dû voir dans le film, c'est que si j'avais dessiné la chaîne alimentaire de,
ah oui,
de la biosphère, j'étais même pas en haut, parce qu'il y a les moustiques ou les mouches ou les chenilles
qui
me bouffaient ou qui bouffaient ma nourriture. Et en fait, je me suis retrouvé un peu bête par rapport aux autres espèces, par rapport aux prédateurs, etc. Je contrôlais pas tout, en fait. Et le fait de pas tout contrôler, ça, j'avais déjà un peu vécu ça parce que quand tu navigues, en fait, tu dépends vachement des éléments naturels, du vent, du soleil, etc. Quand tu voyages en bateau, t'as un peu, comment dire,
lâcher prise.
Tu vois, ça te force un peu à être humble par rapport à la nature parce que tu dépends, par exemple, c'est le vent qui va faire que t'avances ou que tu stagnes. Quand tu traverses un océan, etc. Mais là, là, c'était un cran au-dessus. L'expérience de d'être en dessous de moustiques, de mouches,
d'un
gecko, de c'est eux, c'est eux qui gèrent, enfin qui font ce qu'ils veulent en fait. Et bon, bref, tout ça fait que ça a pas mal changé mon idée de notre rapport à la nature et de même notre idée du progrès et de ce vers quoi il faut aller dans le futur si on veut que les humains restent sur la planète.
Ouais, c'est génial parce qu'on parle tout le temps de prendre soin des écosystèmes, mais souvent c'est hyper abstrait dans ton expérience là. Enfin, c'est très 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 concret et compréhensible facilement, quoi. Et à la fin des 4 mois, du coup, c'est quoi ton bilan sanguin d'abord et ton bilan de l'expérience?
Alors, les 3 premiers mois, je pense pas manger suffisamment équilibré, varié. Mais par contre, le 4e mois, c'était assez abondant, ça marchait vraiment bien. Et je pense que ça a rattrapé les 4 mois parce que la prise de sang finale était très bonne. J'ai pas eu de carence. Et merci. Et donc j'étais très très content de ça, très content du dernier mois qui m'a montré que effectivement j'avais bien senti le truc. Il peut vraiment y avoir des combinaisons de low-tech très malines qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture sur des surfaces très petites avec très peu de moyens, c'est très accessible. Et donc sur le plan technique, j'étais très content de l'expérience. Après sur le plan personnel. J'ai trouvé que c'était une expérience super enrichissante. D'une part, ce que je te disais sur notre lien avec la nature, moi j'ai vraiment senti que je grandissais grâce à cette expérience. Et puis j'ai eu plusieurs fois ces 10-15 dernières années des moments où j'étais un peu tout seul, que ça fait un peu comme une retraite, et c'est dans ces moments-là que je prends des bonnes décisions pour la suite en général, et donc ça a eu cet effet bénéfique, une espèce de petite pause, un petit retrait de la société, et ça, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant aussi, de ce côté-là.
Ouais. Tu vas monter un business de retraite sur des radeaux autonomes?
non, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait de temps en temps me mettre un petit peu en retrait pour prendre les bonnes décisions, parce que par contre du coup le choc a été encore plus brutal de revenir après en Europe et de voir le flux d'informations que on reçoit quotidiennement avec les news, les mails, le boulot, etc. C'est quand même dingue à quel point notre cerveau est sollicité et n'a pas le temps de faire
et
une
pause.
Et par
des trucs superficiels, quoi.
Et ouais, par des trucs dont il n'a pas besoin, qu'il n'a pas demandé, qui ne sont pas nécessaires et qui, au final, brouillent, je pense, brouillent un peu le cerveau. Ouais. Et du coup, ne nous font pas forcément prendre les bonnes décisions, souvent.
Et du coup, il y a, il y a cette expérience perso, mais au-delà de l'aspect un peu waouh d'explorateur, pour vous, c'est hyper important que ce soit démocratisable et partageable. Et donc, par exemple, vous avez calculé que en fait, sur 12 mètres carrés, pour 1 € d'intrants par jour, pardon, tu peux être autonome en protéines, en vitamines et en minéraux. Enfin, c'est énorme.
Ouais, c'est en gros sur une demi-place de parking. Et c'est hyper accessible, c'est que des technologies que tu peux fabriquer avec de la récup pour quelques dizaines d'euros. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant en fait. Et 20 litres d'eau par jour, c'est l'équivalent de quoi? De 3 chasses d'eau peut-être, comme ça. Ouais. C'est 1 euro d'intrant par jour, c'est quand même accessible à la plupart des gens.
Ouais,
et au final, là, il y a quelques années, je crois qu'on a dépassé le nombre de gens qui... Alors attends, je veux pas te dire de conneries dans les chiffres, mais qui mouraient de mauvaise nutrition plus que de sous-nutrition. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Mais
en gros, tu manges beaucoup, de manière beaucoup plus saine, avec des moyens beaucoup plus simples, comme ceux que j'avais, que si tu manges des trucs plus chers, de la mauvaise viande, des trucs avec des...
Il y a un oiseau sur le bateau ou...
Oui. je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais il fait un bruit pas très agréable, désolé.
Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à le faire partir?
Ouais, attends. Voilà. Ah, c'est un corbeau.
Ah oui, ça ressemblait à un corbeau.
Ah, et
désolé, le corbeau.
Est il est sur le mât, donc il va continuer. Yep. C'est bon. Il a compris.
Ça va tellement bien avec le sujet. Et donc, tu disais, au début, tu voyais cet écosystème plus à ton service, quoi, comme on a l'habitude d'imaginer dans notre culture humaine. Et au fur et à mesure, tu les as plus vus comme des êtres vivants, que ce soit animaux ou végétaux, voire comme les membres d'une même famille, parce que c'est eux qui te nourrissaient, en fait. Et tu dis, tu avais même de l'empathie pour les bactéries, quoi. Je trouve ça génial.
Ça, je m'étais déjà rendu compte un petit peu de ça. En discutant par exemple avec le spécialiste qui nous accompagne de la spiruline. Donc la spiruline, c'est une cyanobactérie, et en fait quand tu l'entends parler, il est passionné, c'est Gilles Planchon, il s'appelle, il est passionné de sa spiruline, il est amoureux de son truc, alors que c'est une bactérie, tu la vois même pas à l'œil nu, faut la regarder dans un microscope pour la voir. Et pareil, nos experts pour les plantes sont amoureux de leurs plantes, et en fait je me suis rendu compte que tous les experts qu'on avait été voir qui sont spécialisés dans un truc vivant, tombent amoureux du truc vivant dont ils s'occupent. Et en fait, ça m'est aussi arrivé, moi, sur la plateforme, et donc ça rejoint ce que tu disais sur le lien avec les espèces dont tu dépends. Tu développes vraiment une espèce d'empathie pour les trucs vivants, même s'ils n'ont pas des yeux. Alors, c'est plus facile de développer de l'empathie pour un chat ou un chien. Mais en fait, la spiruline, tu vois, son odeur, elle change, sa couleur, elle change, sa consistance, son goût, etc. Donc, tu la vois réagir. Ouais. Pareil, une plante, tu vois si elle est bien ou pas. Et en fait, du coup, moi, je me suis mis à rêver que plus tard, on n'est plus des chiens ou des chats, mais on est des espèces vivantes qui nous entourent, avec qui on constitue, tu vois, on crée des synergies, on constitue un espèce d'écosystème, des espèces de deal avec d'autres espèces vivantes. Qui pourrait recycler nos déchets organiques, produire notre nourriture, etc. Et ce serait super sympa parce que c'est vraiment une relation positive, en fait. C'est une relation comme une relation amoureuse, au final.
Ça fait écho à plein de trucs. Notamment, je viens de faire un épisode sur la chasse où, effectivement, au lieu de tuer... évidemment, la chasse en général, mais en plus, quand on... Les très rares cas particuliers où on essaie de réguler, en fait, peut-être qu'on pourrait avoir d'autres relations avec, je sais pas, les sangliers qui abîment certaines cultures occasionnellement, et essayer de travailler ensemble autrement, ou même dans le film d'Animal de Cyril Dion, où moi, cette citation qui m'a beaucoup marqué, que on protège que ce qu'on aime. Et c'est sûr que si on connaît rien de ce vivant, de ce monde vivant, on a très peu de chances de le protéger. Et encore plus, du coup, on protège ce qui nous permet de rester en vie, en l'occurrence. Là, de manger ou nous fournir de l'énergie, quoi.
C'est clair que dès que tu te lies à quelque chose de vivant comme une plante, tu vas beaucoup plus respecter les autres plantes, et tu vas beaucoup plus, ça va changer tout ton regard et toute ton attitude envers l'environnement, je pense.
Ouais. Alors aujourd'hui, du coup, il y a plus de 150 tutoriels en open source collaboratif sur votre site wiki.lowtechlab.org que je vous mets en description. Donc pour rendre accessibles toutes ces innovations low-tech, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de l'impact que votre travail a pu avoir, soit toi via tes expériences, soit via l'association ?
Ouais, ben l'association, du coup, on l'a créée en 2013 et donc il n'y a pas que le projet Nomade des Mers. Moi, je fais le tour du monde depuis 6 ans, donc on a fait pas mal d'escales et il y a plein d'anecdotes liées à ça. Mais en France, on est basé à Concarneau. Il y a aussi une équipe qui a fait un tour de France des low-tech et qui a fait une tiny house low-tech, maison qui regroupe 12 ou 13 low-tech différentes. Il y a une autre équipe qui a fait un tour en France et même un peu plus largement en Europe d'initiatives low-tech pour voir comment elles étaient organisées, moins sur l'aspect technique mais plus organisationnel. Et puis aussi, depuis quelques années, il y a d'autres low-tech labs qui sont créés dans plusieurs villes de France et même d'Europe, enfin même d'autres pays du monde. Et donc maintenant, il y a plein d'anecdotes possibles. Et il y a aussi même des jeunes qui sont partis, on les appelle les low-tech explorers, un peu aux quatre coins du monde pour faire le même travail de documentation, de quête des low-tech autour du monde. Donc maintenant, on est des centaines ou peut-être même des milliers à avoir bossé sur le sujet.
Est-ce que dans tout ça, il y a des histoires qui, toi, t'ont touché ?
Et ouais, ben il y a par exemple l'éolienne qu'on a faite au Sénégal. On a appris, enfin ça intéressait des gens au Brésil qu'on a vu à l'escale d'après, qui ont commencé à faire des formations. Et puis cette éolienne, en fait, il y a eu des formations qui ont été faites aussi en France. Et puis il y en a d'autres qui ont fait des formations parce qu'ils étaient formés par d'autres, etc. Et il y a quelques low-tech comme ça qui ont eu pas mal de succès. Mais pour moi, le plus grand succès, c'est de voir que année après année, depuis 2013, il y a de plus en plus de gens qui parlent de low-tech, il y a de plus en plus d'étudiants qui rentrent sur le marché du travail en se disant j'ai envie de donner du sens à ma carrière et je crois qu'il faut développer les low-tech et j'ai envie de bosser là-dedans et qui du coup rejoignent un peu le mouvement. Et c'est pas, tu vois, une anecdote particulière, mais c'est ce qui m'a rendu optimiste, c'est de voir année après année, l'intérêt grandissant, la tendance, ouais. Surtout chez les jeunes, ceux qui se lancent, ouais, dans une carrière. Vraiment, on a plein d'exemples.
Je rappelle que ces innovations, donc tu voulais découvrir en voyageant aux quatre coins du monde. Donc, ça peut être au Maroc, effectivement, avec un jeune ingénieur qui arrive à dessaler l'eau de mer avec l'énergie du soleil. À Madagascar, où une scientifique utilise la spiruline, tu l'évoquais, pour réduire les carences nutritives des enfants. Ou en Thaïlande, où un entrepreneur forme des familles à la culture de champignons à base de déchets agricoles pour les aider à sortir de la pauvreté. Donc, plutôt tout badass. Est-ce que toi, t'en as une de chouchou de low-tech ?
Ouais. Il y a un truc que j'adore. Enfin, un truc, non, c'est vivant. Ça s'appelle la mouche tolda noire. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler.
Non.
On a étudié cette mouche en Malaisie, près de Kuala Lumpur. Et en fait, c'est une mouche dont, avant de devenir mouche, c'est une larve. Et cette larve-là, elle mange très, très efficacement, très rapidement tous les déchets organiques. C'est hyper vorace. Et en fait, ça mange tes déchets organiques, ça les transforme en compost. Et ensuite, ces larves-là, tu peux les récolter pour les donner à manger à, je sais pas, des poules, nous, à des grillons, des poissons.
Etc. C'est un lombricomposteur accéléré et en plus, tu as des larves.
Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, là-bas, ils le faisaient à grande échelle. Ils transforment 300 tonnes de déchets organiques par jour, comme ça.
Ok.
Ça permet d'éviter que ces déchets organiques soient brûlés, soient enfouis avec d'autres déchets.
Mais genre, c'est organisé par une ville ou c'est des habitants?
Non, c'est une entreprise qui s'est créée comme une espèce de ferme de mouches. Et donc, et ces larves-là, ils en font ensuite de la nourriture pour nourrir des poissons. C'est pas mal aussi parce que peut-être pour les poissons d'élevage, ils sont souvent nourris avec des poissons pêchés dans l'océan. Et pour faire, je sais pas, un kilo de poisson d'élevage, il faut le nourrir avec quelque chose comme 3 kilos de poissons pêchés. Et il y a beaucoup de pression sur le golfe du Bengale pour la pêche.
Ouais.
Et donc, ça a plein d'effets positifs. Et puis, ça crée une économie locale. Et donc, pour moi, c'est un bon exemple, ce truc-là. Alors, on en a sur le bateau des mouches, du coup, ça, qui transforme nos déchets organiques. Donc, okay. Je les aime bien. La relation, c'est faite. Et puis, je trouve que c'est un bon exemple de savoir-faire low-tech parce que c'est un truc qui peut être fait à petite échelle comme nous sur le bateau, comme à grande échelle, je faisais 300 tonnes par jour. Et j'aime bien ça parce que c'est un peu notre principe de se dire on diffuse des savoir-faire qui peuvent être faits avec des petits moyens à petite échelle et donc par des entrepreneurs locaux. Et ensuite, ces entrepreneurs peuvent grandir et puis aller jusqu'à gérer un problème d'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture ou là les déchets à l'échelle de leur quartier ou de leur village ou même de leur ville. Et c'est vraiment le modèle qu'on essaye de promouvoir, de dire on diffuse des idées qui vont être reprises de manière très locale et régler des problèmes locaux.
C'est génial.
Dans l'idée que ce soit des milliers d'entrepreneurs locaux qui résolvent les problèmes globaux.
Ouais. Pourquoi est-ce que toi, ça tient autant à cœur, tout ça, personnellement ?
Ben, ça me tient à cœur parce que je me suis rendu compte qu'on était peut-être là où les générations, là, sur quelques décennies, sur lesquelles reposait peut-être le plus grand défi de l'humanité, d'essayer de changer de mode de vie, d'orienter le progrès différemment. Sur une période aussi courte et que je trouve que c'est un défi qui est génial, qui est passionnant et je suis content de ne pas être né à une autre époque et je suis content de mettre mon temps et mes compétences et mes passions au service de ce défi-là. C'est pour moi le plus grand de notre époque. J'en ai marre d'ailleurs d'entendre des news là-dessus, mais chaque news que j'entends sur le réchauffement climatique ou sur la disparition de la biodiversité, etc., ça me convainc encore plus à chaque fois qu'en fait, il faut se focaliser là-dessus, c'est le truc.
Ouais.
Et donc, j'ai pas mal d'énergie pour ça. Et je trouve ça passionnant. On pourrait être défaitiste et se dire « Ah, c'est la merde », parce que c'est vrai que c'est quand même pas très joyeux, les news qu'on entend, on a l'impression que c'est un problème qui est complètement négligé, en fait, à grande échelle. Mmh. Et je pense que c'est vrai, hein, c'est complètement négligé. Et que dans 1000 ans, on se dira, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne s'est pas réveillé sur cette question-là? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout d'un coup tout arrêté pour résoudre ce problème-là? Donc, quelquefois, c'est un petit peu déprimant de voir qu'il n'y a pas plus d'intérêt porté sur la question. Mais
je trouve ça génial aussi de le voir sous le côté ok, c'est un défi, c'est excitant et on va essayer de le relever, quoi.
Ah ouais, c'est un défi qui est passionnant et je trouve que j'ai la chance d'être né au bon moment, au bon endroit au final, parce que si j'étais né au fin fond de la Somalie, j'aurais voulu avoir conscience du problème, je vois pas ce que j'aurais pu faire, alors que là je suis dans un des pays d'où est né le problème. Ouais, j'aurais pu faire un élevage de mouches, mais bon. Tu vois, là, j'ai l'impression que j'ai les moyens d'avoir de l'impact et d'être vraiment acteur de changement.
Ouais. C'est bien de rappeler qu'on a cette chance-là et du coup qu'on peut avoir plus d'impact que la moyenne, quoi.
Ouais.
Je crois que tu prépares une nouvelle aventure dans le désert. Tu peux nous en dire plus?
Ouais. En fait, l'expérience de Biosphère là en Thaïlande, c'était il y a 3 ans maintenant. Et depuis, on a fait pas mal d'autres escales. On a découvert d'autres innovations, dont les mouches. Et du coup, on est en train de travailler avec Caroline Pulse, qui est on peut dire designer low-tech belge. On travaille sur une nouvelle expérience qui, du coup, combine d'autres innovations que celles que j'avais utilisées en Thaïlande.
Ouais.
Et qui va être cette fois dans le désert. Je dis pas où, c'est une surprise. mais encore sous contrainte pendant 4 mois. Et cette fois, on fait vraiment tout un travail avec des experts et aussi des designers, etc., pour essayer de faire un écosystème dans lequel les humains peuvent vivre et qui soit à la fois hyper efficace, hyper écologique et aussi vraiment désirable et futuriste, qu'on puisse se dire waouh, ce serait génial qu'on commence à vivre comme ça.
Trop bien.
Et donc on bosse à fond là-dessus en ce moment. C'est pour l'hiver prochain.
Oui, puis ça résonne forcément avec le réchauffement climatique. Si t'es capable d'être autonome dans le désert, t'es capable d'être autonome dans pas mal d'endroits du monde qui vont se réchauffer de plusieurs degrés, quoi.
Ouais, il y a pas mal de zones. On estime qu'il y a 41% de zones arides sur la planète. Donc on va se mettre dans un désert pour que ça représente un petit peu ces zones-là qui grandissent de plus en plus. Donc ça veut dire que c'est des contraintes intéressantes pour nous. Il y a très peu d'eau. Enfin, il y a pas d'eau. En fait, on aura de l'eau de mer pas loin. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de terre cultivable, qui représente aussi pas mal de coins de la planète maintenant, entre les zones urbanisées, polluées, avec les eaux qui montent, etc. Enfin bref, c'est une contrainte intéressante pour.
C'est un sacré défi, oui.
Ouais.
J'ai hâte de voir le résultat. Selon toi, face à la crise climatique, la raréfaction des ressources et la chute de la biodiversité, tu dis qu'on a besoin d'explorateurs de modes de vie qui soient radicalement alternatifs. Tu cites Bea Johnson notamment, donc un peu la reine du zéro déchet. Est-ce qu'il y a d'autres explorateurs de modes de vie qui t'inspirent, toi?
C'est vrai que tout ce qui est zéro déchet, il y a pas mal. Enfin, j'ai trouvé que c'était un mouvement qui avait pris dans le monde entier de manière assez rapide et qui était basé sur l'expérimentation des gens qui ont fait par eux-mêmes et qui en ont parlé et qui ont inspiré d'autres gens qui, à son tour, se sont dit ah ouais, tiens, moi aussi j'essaierais bien. Et moi, j'adore tout ce qui est par expérimentation comme ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça des explorateurs de mode de vie, c'est des gens qui essayent et puis bon, ça marche ou ça marche pas, au moins ils essayent en fait et ils avancent comme ça. Et ouais, bah il y en a plein dans le monde du zéro déchet, en fait quasiment tous les gens qui ont inventé des low-tech qu'on a été voir aux quatre coins du monde, c'est un peu des gens qui expérimentent, qui restent pas dans la théorie, tu vois, qui lancent leur truc. La dame qu'on a été voir sur la spiruline, elle a commencé avec un petit bassin, puis ça a grandi, puis elle en mange tous les jours, et puis elle a commencé à faire manger aux gens de son entourage, etc. En fait, tous ceux qu'on va voir, c'est des gens qui expérimentent. Et je suis assez persuadé, moi, que c'est la meilleure manière d'avancer, plutôt que de juste réfléchir à un truc théorique et puis pousser la théorie. En disant ah ce serait bien que tout le monde fasse ça, en fait d'essayer soi-même des trucs de manière très concrète, pour moi c'est la meilleure manière d'avancer,
t'embarques les gens, quoi,
et puis tu t'auto-convaincs, je pense, tu vois si ça marche pas, et puis si ça marche t'es beaucoup plus convaincu, t'es beaucoup plus convaincant, et puis je sais pas, tu rayonnes un truc qui fait que tu transmets l'envie à d'autres de le faire.
Ouais, je me rendais compte en préparant l'interview que je crois évidemment pas que la technologie va nous sauver, et je suis là, si en fait peut-être, mais du coup plutôt la technologie low-tech, parce que je me dis plus les problèmes vont s'aggraver, plus il y aura de pénuries agricoles, de problèmes divers et variés, plus les low-tech vont exploser a priori. Est-ce que vous vous préparez à ce déploiement massif potentiel des low-tech qui risque d'arriver de gré ou de force?
On n'est pas vraiment on se considère pas comme collapsologue à attendre un effondrement pour que toutes ces low-tech apparaissent. On n'est pas non plus dans l'idée que les technologies vont nous sauver, ou en tout cas, tu vois, il y a pas mal de gens qui essayent de trouver des technologies pour résoudre nos problèmes. Et je trouve que notre démarche, elle est un peu différente. C'est plutôt comment est-ce qu'on repense nos modes de vie pour pas qu'on ait tous ces problèmes qui en découlent. Parce que quand tu réfléchis juste à comment les technologies peuvent répondre, résoudre nos problèmes, c'est comme ça que tu commences à designer, à inventer des trucs qui vont absorber les émissions de gaz à effet de serre ou de pollution des voitures dans les villes. Tu commences à
polliniser les fleurs.
Oui, exactement. Ouais. Je trouve que c'est réfléchir dans le mauvais sens, et c'est un truc qui est infini de faire ça. Enfin, il y a 10 000 problèmes et on trouvera jamais les 10 000 solutions, et puis c'est à tous ces problèmes-là, et puis on va en générer d'autres, etc. Donc, la démarche est plutôt de réduire le nombre de problèmes en repensant nos modes de vie, qui soient à la fois plus durables, mais aussi plus sains et plus épanouissants. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu te rends compte que tu as besoin de beaucoup moins de technologies. Par contre, ces technologies dont tu as besoin, tu te rends compte qu'elles peuvent être très accessibles. Elles peuvent être, comme pour la biosphère, combinées entre elles pour que ce soit circulaire, que tu n'aies pas de déchets, que des ressources, etc. Et donc, c'est pas du tout, c'est pas du tout technocentré, notre solution. On ne croit pas du tout que c'est la technologie qui va nous sauver. On en a besoin de la technologie, mais c'est d'abord nous qui allons nous sauver nous-mêmes en changeant notre état d'esprit et nos modes de vie. En se disant pas, il faut soit aller vers le futur hyper high-tech, soit revenir en arrière comme il y a 50 ans, mais en se disant, si on réfléchit bien à nos besoins, on peut aller vers des modes de vie qui soient beaucoup mieux, qui sont beaucoup mieux que ceux actuels et qui demandent moins d'énergie, qui génèrent moins de pollution, qui sont beaucoup plus simples à gérer d'un point de vue, enfin, quand on est 9 milliards. Ouais. Parce qu'on sera bientôt 9 milliards.
Okay, ça répond à ta question. J'essaie de. Mais oui,
je me suis emballé, je me rappelle plus de ta question.
Non, c'est trop bien. Quand on pense solo tech, moi je pense plutôt aux pays pauvres. Des fours solaires, des trucs comme ça. À quoi ça ressemble des low-tech pour les Français ? Est-ce que c'est avoir plus de compost partout ? Est-ce qu'on fait nos propres élevages de grillons ? Enfin, est-ce qu'on recycle les eaux grises ?
Il y en a plein qui peuvent être faites en milieu occidental. Bah, la preuve, c'est que là, on est en escale à New York et on a vu plusieurs low-tech.
Ouais.
Il y a une équipe en France qui a fait un tour de France des low-tech et qui a fait... une maison low-tech. Donc en fait t'as pareil, c'est un peu sur tous les thèmes. T'as par exemple sur le tout ce qui est chauffage, t'as les chauffeurs solaires, les chauffe-eau solaires, t'as plein de systèmes qui te permettent de réduire à fond le chauffage dans ta maison. T'as sur les déchets des systèmes pareil pour les déchets organiques avec soit des larves, soit des vers, t'as des systèmes de traitement des eaux grises pour faire pousser des plantes. T'as vraiment plein de systèmes qui sont adaptés, même pour des pays riches et même en pleine ville, en fait. À New York, tu vois, ils font pousser de la spiruline en plein Brooklyn. Ils font des cultures de champignons avec des déchets issus de l'agriculture.
Tu veux faire exploser le marché mondial de la spiruline tout seul.
J'espère pas que ça, parce qu'il y a plein d'autres alternatives. Il y a des gens qui font de l'aquaponie, des cultures de poissons et de plantes et de bactéries combinées. T'as vraiment plein de trucs qui sont faits pour les villes, pays riches, etc. Tu peux regarder sur le site lowtechlab.org. Il y a plein d'exemples de tutoriels, de trucs. Il y a des trucs très simples, comme tout ce qui correspond au monde zéro déchet, par exemple. Donc, il y a plein de tutos comme ça, et des trucs un peu plus compliqués, un peu plus pointus, comme se faire un chauffeur solaire, par exemple.
Trop bien. Merci beaucoup, Corentin. C'était vraiment un régal. Je suis content d'avoir...
Merci à toi, Pierre.
J'allais dire t'avoir rencontré aussi. C'était à distance.
J'espère que... je sais pas dans combien de thèmes podcast c'est, mais j'espère que tu trouves du sens.
C'est mon job, donc... c'est un gros kiff de rencontrer des gens comme toi. Vraiment, aller voir le docu 4 mois sur ma biosphère, c'est trop intéressant. Et il y a plein d'autres... des spin-offs sur Arte. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Corentin, envoie un texto à un ami et partage-lui ce podcast pour faire rayonner les low-tech. Et moi, ça m'aide énormément. Ciao Corentin, ciao tout le monde.
Merci Pierre.